Postface par l'auteur. Certains romans hantent l'esprit du lecteur, d'autres celui de l'auteur. La Servante écarlate a fait les deux. Ce roman n'a jamais cessé d'être publié depuis sa première parution en 1985. Il s'en est vendu des millions d'exemplaires à travers le monde dans une variété étourdissante d'éditions et de traductions. Il est devenu une sorte de référence pour ceux qui écrivent à propos d'évolutions politiques visant à prendre le contrôle des femmes, particulièrement celui de leur corps et de leurs fonctions reproductrices. Un peu dans le genre de La Servante écarlate et « On pense à La Servante écarlate » sont devenues des expressions familières. Le roman a été banni de certains lycées et il a inspiré d'étranges blogs sur le web où l'on discute de ces descriptions de la répression des femmes comme s'il s'agissait de recettes de cuisine. Des lecteurs, pas seulement des femmes, m'ont envoyé des photos de leurs tatouages, des phrases extraites de La Servante écarlate. Nolite te salopardes exterminorum et y a-t-il des questions sont les plus fréquentes. Le livre a eu plusieurs incarnations à la scène et à l'écran, dont un film, réalisé par Volker Schlöndorff sur un scénario de Harold Pinter, et un opéra, par Paul Ruders. Certains se déguisent en servantes pour Halloween, et aussi lors de manifestations. Ces deux façons de porter ce costume reflètent la dualité. Est-ce un divertissement ou une sombre prophétie politique? Est-il possible que ce soit les deux? Je n'avais rien imaginé de tout cela en écrivant le livre. J'ai commencé ce roman il y a plus de 30 ans, au printemps de 1984, alors que j'habitais Berlin-Ouest, encore encerclé à l'époque par le mur. Au départ, son titre n'était pas La Servante écarlate. Il s'appelait Offred. Mais je note dans mon journal que son nom a changé le 3 janvier 1985, alors que près de 150 pages avaient déjà été écrites. Cela étant, c'est à peu près tout ce que je note. Dans mon journal, on trouve les pleurnicheries habituelles de l'écrivain, telles que « je m'efforce de me remettre à écrire après une trop longue absence, le courage me manque » ou bien « je pense aux horreurs de la publication et aux accusations qui m'attendent dans les articles critiques ». Il y a des entrées concernant le temps. La pluie et le tonnerre font l'objet de mentions particulières. Je rends compte de la découverte de vestes de loup, toujours une source de jubilation. De dîner, avec la liste des convives et de ce que j'ai servi. De maladies, les miennes et celles des autres. Et de la mort d'amis. J'y consigne des livres que j'ai lus, des discours que j'ai prononcés, des voyages que j'ai faits. Il y a des comptages de pages. J'avais l'habitude de comptabiliser les pages remplies afin de m'encourager à aller de l'avant. Mais il n'y a aucune réflexion sur le travail de composition ni sur le sujet du livre lui-même. C'est peut-être parce que je pensais savoir où j'allais et que je n'avais aucun besoin de m'interroger là-dessus. Je me souviens que j'écrivais au stylo et que je transcrivais ensuite mon texte à l'aide d'une machine à écrire. Je gribouillais alors les pages que je remettais à une dactylo professionnelle. En 1985, les ordinateurs individuels en étaient encore à leur balbutiement. Je vois que j'ai quitté Berlin en juin 1984 pour retourner au Canada, que j'ai écrit pendant tout l'automne, et que j'ai ensuite passé 4 mois, début 85, à Tuscaloosa, en Alabama, où j'ai enseigné dans le cadre d'un MFA, Master of Fine Arts. C'est là que j'ai achevé le livre. La première personne à l'avoir lu était une consoeur, Valérie Martine, également en résidence à l'université. Je me souviens qu'elle a dit « Je crois que tu tiens quelque chose d'intéressant ». Elle-même se souvient d'avoir manifesté plus d'enthousiasme. Entre le 12 septembre 1984 et juin 1985, il n'y a aucune entrée dans mon journal. Rien du tout. Pas même une veste de loup. Bien que d'après mon comptage de pages, je devais écrire à la vitesse de l'éclair. Le 10 juin, il y a une mention lapidaire. Terminé les corrections de La Servante écarlate la semaine dernière. Le 19 août, les épreuves avaient été relues. Le livre paru au Canada à l'automne 1985, suscitant des réactions perplexes et parfois angoissées. Est-ce que ça pourrait arriver ici? Mais le journal ne contient aucun commentaire de ma part sur ces réactions. Le 16 novembre, je trouve une autre pleurnicherie. Je me sens complètement vidée, à laquelle j'ai ajouté « mais fonctionnelle ». Le livre est sorti au Royaume-Uni en février 86, en même temps qu'aux États-Unis. Au Royaume-Uni, qui avait eu sa période Oliver Cromwell quelques siècles plus tôt et qui n'était pas d'humeur à la répéter, la réaction fut du genre « drôlement bien comme histoire ». Mais aux États-Unis, malgré une critique dédaigneuse de Mary McCarthy dans le New York Times, ce fut plutôt « combien de temps nous reste-t-il avant que ça n'arrive ?» Les histoires à propos du futur partent toujours d'une question du type « que se passerait-il si ?» et La Servante écarlate en a plusieurs. Par exemple, si vous vouliez vous emparer du pouvoir aux États-Unis, abolir la démocratie libérale et instaurer une dictature, comment vous y prendriez-vous? Quelle histoire inventeriez-vous pour enrober l'affaire? Ça ne pourrait pas ressembler à une quelconque forme de communisme ou de socialisme, qui sont trop impopulaires. Vous pourriez utiliser le terme de démocratie pour en abolir la forme libérale. Ce n'est pas hors de question, même si je ne le croyais pas possible en 1985. Les nations ne construisent jamais des formes de gouvernement radical sur des fondations qui n'existent pas déjà. C'est ainsi que la Chine a remplacé une bureaucratie étatique par une bureaucratie étatique similaire, mais sous un nom différent. Que l'URSS a remplacé la redoutable police secrète impériale par une police secrète encore plus redoutée, et ainsi de suite. La fondation profonde des États-Unis, c'est ainsi que j'ai raisonné, n'est pas l'ensemble de structures de l'âge des Lumières du XVIIIe siècle, relativement récente, avec leurs discours sur l'égalité et la séparation de l'Église et de l'État, mais la brutale théocratie de la Nouvelle-Angleterre puritaine du XVIIe siècle, avec ses préjugés contre les femmes, et à qui une période de chaos social suffirait pour se réaffirmer. Comme toute théocratie, celle-ci sélectionnerait quelques passages de la Bible pour justifier ses actions, et elle pencherait fortement vers l'Ancien Testament plutôt que vers le Nouveau. Les classes dirigeantes s'assureront toujours d'obtenir les biens et services les plus rares et les plus désirables, et comme l'un des axiomes du roman est que la fertilité dans l'Occident industrialisé est menacée, le rare et désirable inclurait les femmes fertiles, toujours sur la liste des désirs humains d'une façon ou d'une autre, et le contrôle de la reproduction. Qui aura des enfants? Qui aura le droit de les prendre pour soi et de les élever? Qui sera tenu pour responsable s'il leur arrive quelque chose? Ce sont là des questions qui occupent les êtres humains depuis fort longtemps. Il y aurait de la résistance à un tel régime, une organisation secrète et même une route clandestine pour permettre des évasions. Rétrospectivement, compte tenu des technologies disponibles au XXe siècle en matière d'espionnage et de contrôle de la société, cela semble un petit peu trop facile. Les commandants de Gilead auraient utilisé tous les moyens nécessaires pour éliminer les Quakers, ainsi que l'ont fait leurs ancêtres puritains du XVIIe siècle. Je m'étais fixé une règle. Je n'inclurais rien que l'humanité n'ait pas déjà fait ailleurs ou à une autre époque, ou pour lequel la technologie n'existerait pas déjà. Je ne voulais pas me voir accusé de sombres inventions tordues ou d'exagérer l'aptitude humaine à se comporter de façon déplorable. Les pendaisons en groupe, les victimes déchiquetées par la foule, les tenues propres à chaque caste et à chaque classe, les enfants volés par des régimes et remis à des officiels de haut rang, l'interdiction de l'apprentissage de la lecture, le déni du droit à la propriété, tout cela a des précédents et une bonne partie se rencontre non pas dans d'autres cultures ou religions, mais dans la société occidentale et au sein même de la tradition chrétienne. Je mets le mot « chrétienne » entre guillemets, car je suis convaincue qu'une grande part de l'attitude et de la doctrine de l'Église au cours de ses 2000 ans d'existence en tant qu'organisation sociale et politique aurait été odieuse aux yeux de celui d'où son nom est tiré. On a souvent qualifié La Servante écarlate de dystopie féministe, mais ce terme n'est pas strictement approprié. Dans une dystopie féministe pure et simple, tous les hommes auraient des droits bien plus importants que ceux des femmes. Elle comporterait une structure à deux couches, la supérieure pour les hommes, l'inférieure pour les femmes. Mais Gilead est une dictature de type classique. Construite sur le modèle d'une pyramide avec les plus puissants des deux sexes au sommet, à niveau égal, les hommes ayant généralement l'ascendant sur les femmes, puis des strates de pouvoir et de prestige décroissants, mêlant toujours hommes et femmes, jusqu'au bas de l'échelle où les hommes célibataires doivent servir dans les rangs de l'armée avant de se voir attribuer une écofemme. Les servantes elles-mêmes forment une caste de parias au sein de la pyramide. considérées comme précieuses pour ce qu'elles sont capables de fournir, leur fertilité, mais intouchables autrement. Cependant, en posséder une est une marque de statut élevé, de même que posséder de nombreux esclaves ou domestiques l'a toujours été. Comme le régime fonctionne sous l'apparence d'un strict puritanisme, ces femmes ne sont pas considérées comme un harem destiné à prodiguer du plaisir en même temps que des enfants. Elles sont fonctionnelles plutôt que décoratives. Trois choses qui m'ont longtemps intéressée se sont assemblées durant l'écriture de ce livre. La première était mon intérêt pour la littérature dystopienne, un intérêt qui a commencé pendant mon adolescence quand j'ai lu 1984 d'Orwell, Le meilleur des mondes de Huxley et Fahrenheit 451 de Bradbury, et qui s'est poursuivi pendant mes études de doctorat à Harvard au début des années 1960. Une fois qu'une forme littéraire a capté votre attention, vous nourrissez toujours le désir secret d'en écrire vous-même un exemple. La deuxième était mes études des XVIIe et XVIIIe siècles américains, encore une fois à Harvard, qui m'intéressaient particulièrement parce que nombre de mes ancêtres ont vécu à ces époques et dans cet endroit. La troisième était ma fascination pour les dictatures et leur mode de fonctionnement, ce qui n'est pas inhabituel chez une personne née en 1939, 3 mois après le début de la Seconde Guerre mondiale. Comme la Révolution américaine et la française, comme les trois principales dictatures du XXe siècle, je dis « principales » parce qu'il y en a eu d'autres, par exemple au Cambodge et en Roumanie, et comme le régime puritain de la Nouvelle-Angleterre avant lui, Gilead a de l'idéalisme utopien qui coule dans ses veines. Associé à un principe de grande élévation morale, son ombre toujours présente, l'opportunisme dans l'exploitation des lois et la forte propension des puissants à s'adonner en coulisses à des plaisirs sensuels interdits aux autres. Mais de telles escapades derrière des portes closes doivent rester cachées, car le régime affiche comme raison d'être l'idée qu'il améliore les conditions de vie, tant physiques que morales. Et comme tous les régimes de ce type, il dépend de ses vrais croyants. J'ai peut-être été trop optimiste en concluant l'histoire de la servante par un échec complet. Même 1984, la plus sombre de toutes les visions littéraires, ne se termine pas par une botte piétinant un visage humain éternellement, ni même par un Winston Smith brisé et alcoolique, éprouvant un amour béat pour Big Brother. Il se conclut par un essai sur le régime écrit au passé et en anglais standard. De même, j'ai ménagé à ma servante une évasion possible par le Maine et le Canada. Et j'ai aussi ajouté un épilogue qui laisse imaginer que la servante et le monde où elle vivait sont remisés dans un lointain passé historique. Quand on me demande si l'histoire de la servante écarlate est sur le point de devenir vraie, je me dis qu'il y a deux avenirs dans le livre, et que si le premier devient vrai, le second le pourrait aussi.